Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'information. Au sommaire aujourd'hui, David Petel, nouveau grand rabbin de Prague, les condamnés dans l'affaire Mus demandent l'audience publique et la ministre de la Justice envisage des formations pour les policiers afin de mieux communiquer avec les victimes. David Petel succède à Carlos Sedon dans les fonctions de grand rabbin de Prague. Âgé de 38 ans, David Petel, qui a étudié dans plusieurs écoles religieuses en Israël entre 1998 et 2011, a été élu lundi par la communauté juive de Prague, une des plus anciennes communautés juives d'Europe. Ces trois dernières années, il était déjà rabbin de Prague, précisément avec Carlos Sedon. En poste depuis 1992, celui-ci a démissionné le 1er juillet dernier en raison de son âge et pour des raisons personnelles. En automne dernier, le verdict du tribunal pénal fédéral de Bellinzone en Suisse a condamné 5 Tchèques et un Belge dans l'affaire de privatisation frauduleuse de la plus grande société minière tchèque, Mostecká uhelná společnost. Ayant porté plainte contre le jugement, les condamnés demandent l'audience publique pour la suite de leur procès, tandis que la procédure ordinaire implique le huis clos. L'agenda du tribunal fédéral de Lausanne, l'instance supérieure à celui de Bellinzone, étant très chargé, le cas des ex-managers de Mus pourrait se trouver à l'ordre du jour dans un an. La ministre de la Justice, Helena Válková, du mouvement Anon, veut demander à son collègue en charge de l'intérieur d'organiser des séminaires pour les policiers. Ceux-ci devraient être formés afin de mieux communiquer avec les victimes des actes criminels. Jusqu'alors, pour informer les victimes de leurs droits, les agents de police leur fournissaient un dépliant explicatif. La ministre de la Justice voudrait que prochainement, ils soient capables d'adapter la quantité d'informations fournies ainsi que la manière de leur transmission en fonction de l'âge ou de l'état psychique de la victime. La version tchèque de l'Atlas de la viande, présentée par les organisations environnementales ce mardi, offre une analyse des effets néfastes de l'industrie de la viande dans le monde globalisé. Selon un des membres du mouvement écologique Duha, la publication ne vise pas à décourager les gens de la consommation de la viande. L'Atlas pointe du doigt la concentration croissante dans l'industrie de la viande, qui fait que 90% de cochons sont abattus dans des abattoirs d'une dizaine d'entreprises. Les auteurs proposent de revenir aux élevages de plus petite taille, avec des meilleurs standards, même s'ils sont plus chers. Le tribunal régional de Brno à Moravie a décidé ce mardi que la femme âgée de 18 ans ne doit pas payer la dette créée pendant qu'elle était encore mineure. Pendant 7 ans, sa mère n'a pas payé pour la collecte des déchets, un frais qui est facturé par habitant, peu importe son âge. Au moment de sa maturité, la personne s'est donc retrouvée avec une dette d'environ 150 euros. Selon le verdict, la municipalité peut exiger le paiement du représentant légal de l'enfant, mais non de l'enfant quand il a atteint l'âge de la maturité. Ce problème se pose toujours pour les enfants des centres d'hébergement. Et nous terminons sur un mot de météo. Ce mercredi, jour de la fête des Jindřiška, le ciel est partiellement couvert sur l'ensemble du territoire, avec plus de nuages à l'est de la Moravie et quelques averses à l'ouest de la Bohême. Les températures varient entre 23 et 26 degrés pour les maximales. Et avec cela, Lucie Drexelová vous remercie d'avoir suivi ce bulletin d'information. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme. C'est maintenant avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Lucie pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Une actualité au sommaire de laquelle figure tout d'abord, une fois n'est pas coutume, du sport, ou plus précisément, une affaire qui prend une tournure juridique. Il s'agit bien entendu de l'affaire concernant Roman Kreuziger. Le meilleur coureur tchèque de ces dernières années a été suspendu par l'Union Cycliste Internationale, qui le soupçonne de dopage, une décision vivement contestée par Roman Kreuziger et son entourage, qui vont donc faire appel de la sanction auprès du tribunal arbitral du sport. Plus de précisions sur le sujet dans quelques instants. Été oblige, nous poursuivrons ensuite notre série consacrée à des marques et à des produits de la République tchèque dont la réputation dépasse les frontières du pays. Aujourd'hui, c'est des chaussures Batia dont il sera question. Nous vous inviterons à découvrir ou à redécouvrir la saga de la famille Batia. Et puis, comme chaque mardi, c'est la rubrique Panorama que nous retrouverons dans la seconde moitié de l'émission avec aujourd'hui un reportage sur le vin d'Europe centrale qui a lui aussi, paraît-il, une robe très design. Mais avant de développer tous ces sujets, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Depuis samedi dernier, c'est officiel. Soupçonné de dopage, Roman Kreuziger a été suspendu à titre provisoire par l'Union cycliste internationale, l'UCI. Bien que le meilleur coureur tchèque de ces dernières années n'ait jamais été contrôlé positif durant sa carrière, la fédération a estimé que les anomalies apparues en 2011 et 2012 dans son passeport biologique étaient trop importantes pour ne pas l'empêcher de courir. La possibilité d'une violation des règles antidopage existant selon elle. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Ce mardi, Roman Kreuziger, qui conteste la décision et n'avait déjà pas participé au dernier Tour de France par mesure de précaution, a annoncé qu'il allait faire appel de la sanction devant le tribunal arbitral du sport. Moins de 10 jours après l'arrivée du Tour de France, c'est désormais le Tour de Pologne qui occupe le devant de l'actualité cycliste. Et lundi, à Varsovie, c'est un jeune coureur tchèque, jusqu'alors pratiquement inconnu, Petr Vakoč, qui s'est illustré en remportant en solitaire la deuxième étape et en endossant du même coup le maillot de leader de la course. Malgré ce coup d'éclat, l'actualité cycliste en République tchèque ces derniers jours, c'est d'abord ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Kreuziger. Absent également d'un Tour de Pologne, sur lequel son équipe, Tinkoff Saxo, comptait pourtant bien l'aligner samedi dernier encore, veille du départ de la course, le coureur tchèque n'est actuellement plus autorisé à courir par l'UCI, celle-ci estimant que dans le cas présent, ce n'est pas le principe de présomption d'innocence, mais celui de présomption de culpabilité qui doit prévaloir. Un point de vue discutable qui constitue une grande première dans l'histoire déjà longue de la lutte contre le dopage. Un point de vue qui fait aussi l'objet de nombreuses contestations, comme l'a confirmé à la radio tchèque Jan Štěvíček, l'avocat de Roman Kreuziger. Ce n'est pas seulement l'avis de Roman ou le mien, mais aussi celui de son équipe. Nous pensons tous qu'il s'agit d'une énorme fabulation de l'UCI. Nous avons été informés de cette possible suspension jeudi dernier. Nous avons immédiatement protesté en argumentant que les règlements de l'UCI ne permettent pas de suspendre à titre provisoire un coureur qui n'a pas fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. Il est bien mentionné dans les textes qu'une suspension provisoire ne peut être imposée qu'en cas d'échantillon A positif, ce qui n'est absolument pas le cas de M. Kreuziger. C'est pourquoi nous entendons nous défendre et contester cette décision en justice. L'avocat de Roman Kreuziger est persuadé que son client ne peut pas ne pas obtenir gain de cause. Jan Štěvíček affirme que la sanction prise par l'UCI constitue une violation flagrante de ses propres règles antidopage. Pour rappel des faits, le coureur tchèque, 5e du Tour de France et vainqueur de l'Amstel Gold Race la saison dernière, est mis en cause pour des fluctuations remontant à 2011 et 2012 du profil sanguin sur son passeport biologique, un document électronique relevant les résultats des contrôles antidopage subis par un sportif depuis le début de sa carrière. Si ces anomalies peuvent laisser à penser que Kreuziger a effectivement bien eu recours à des pratiques dopantes lors de son passage au sein de l'équipe kazakh Astana en 2011 et 2012, elles ne constituent cependant nullement une preuve suffisante, et ce d'autant moins que le coéquipier d'Alberto Contador n'a jamais été contrôlé positif. Dans un communiqué publié ce mardi, Roman Kreuziger a contesté fermement ces accusations de dopage. Il assure, je cite, que les données du profil sanguin n'ont jamais dépassé les valeurs limites fixées par l'UCI elle-même. Elles n'ont approché les limites qu'une seule fois à cause d'une déshydratation extrême après une étape de montagne au Tour d'Italie 2012. Fin de citation. Son avocat, Jan Štěvíček, précise. Tous les experts indépendants que j'ai sollicités ont confirmé que la position de l'UCI était un non-sens. L'UCI juge qu'il y aurait pu y avoir un dopage, mais ce serait alors la première fois de l'histoire qu'un sportif serait condamné pour des anomalies dans son passeport biologique. Les données qui sont disponibles n'ont jamais dépassé les limites établies. Roman Kreuziger, qui réclame l'annulation de sa suspension, va donc faire appel devant le tribunal arbitral du sport en espérant pouvoir participer au Tour d'Espagne qui s'élancera le 23 août. Radio Prague, vous le savez, vous propose cette année une série estivale consacrée à des marques et des produits de la République tchèque dont la réputation dépasse les frontières du pays. De l'antivirus Avast au tracteur Zetor, en passant par le Semtex, la pervitine ou le Kleinlik, poilu ou non, la sélection n'est sûrement pas exhaustive, elle n'en est pas moins variée, la preuve aujourd'hui avec les chaussures Batia, un sujet d'Alexis Rosenzweig.
Coup de pompe dans cet épisode consacré au roi de la chaussure et à la marque tchèque sûrement la plus portée dans le monde, Batia, connue à l'étranger comme Bata.
Il y a deux choses qui font marcher le monde, l'amour et Bata.
Cette publicité française de 1989, même si elle exagère un peu, est presque dans le vrai. Bata fête cette année ses 120 ans et est présente dans 60 pays du monde avec pas moins de 5000 magasins. 1 million de clients par jour, affirme la marque sur son site internet et sur tous les réseaux sociaux devenus incontournables pour son marketing. À l'origine, en 1894, deux frères et une sœur, Anna Antonine et Tomasz Batia, issus d'une famille de cordonniers, montent leur première fabrique de chaussures dans leur fief morave, Zlin, dans ce qui était encore à l'époque l'Empire austro-hongrois. C'est d'ailleurs en chaussant l'armée austro-hongroise que l'entreprise familiale prend réellement son essor pour devenir l'un des principaux employeurs de la nouvelle Tchécoslovaquie. Inspirés par l'Europe et les États-Unis, les nouvelles méthodes Bata vont faire leurs preuves, comme le note l'historien Jiří Pernes.
Tomasz Batia a dépassé le modèle américain en ce qui concerne l'organisation du travail et l'idée de coparticipation des employés à la prospérité de la firme. Si les entreprises Ford en Amérique ont été les premières à moderniser la production en introduisant le travail à la chaîne, Tomasz Batia a, lui, encore perfectionné les méthodes de travail en motivant financièrement ses employés pour qu'ils soient intéressés à la production, travaillent mieux et contribuent à une plus grande prospérité.
L'expansion se fait au pas de charge. En quelques années, des filiales sont ouvertes dans de nombreux pays. Bataville est fondée en Lorraine en 1931. Peu avant sa mort, dans un accident d'avion en 1932, Tomasz Batia prononce à son retour d'Inde un discours qui restera célèbre. N'ayons pas peur de l'avenir. La moitié de la population mondiale marche pieds nus et à peine 5% des gens sont bien chaussés. Il est donc évident que nous avons effectué bien peu de travail jusqu'ici et que la tâche qui attend tous les cordonniers du monde est énorme. C'est ce que déclarait le cordonnier qui bâtit des quartiers d'habitation entiers autour de ses usines. N'ayons pas peur de l'avenir, soit, mais méfions-nous quand même des régimes totalitaires. L'entreprise est réquisitionnée par les nazis et il ne faudra pas longtemps après la fin de la guerre pour que Batia soit nationalisée. Les communistes y vont avec leurs gros sabots. Ils rebaptisent l'entreprise qui devient Svit, ainsi que la ville de Zlin qui devient Gottwaldorf.
Cet hiver, Eaton vous aidera à vous moquer des intempéries grâce aux bottes Bata, fabriquées au Canada pour les hivers canadiens.
C'est le Canada qui devient alors la patrie de l'Empire Bata pour plus de 4 décennies. Ce n'est qu'une fois le régime communiste tombé que Tomasz Batia fils est invité à Prague par Václav Havel et décoré de la plus haute distinction nationale. Entre-temps, l'entreprise Bata affiche 14 milliards de paires de chaussures vendues, ce qui lui vaudrait apparemment une entrée dans le livre des records en tant que plus grand fabricant de chaussures de tous les temps. Mais le capitalisme paternaliste des années 30 a fait son temps et l'utopie a laissé place à une dure réalité. Mondialisation, délocalisation, restructuration, des mots qui riment avec les mots d'employés laissés sur le carreau.
Je suis entré en 73, donc j'ai travaillé pendant 28 ans. Moi, j'ai mis un bata parce que je travaillais pas à l'école, quoi. Bon, il n'y avait que bata.
Le but recherché, c'était de faire en sorte que Bata, l'entreprise, soit le centre du monde.
La désillusion des licenciés d'usines françaises et anglaises a fait l'objet de plusieurs films documentaires, dont Bataville et Pas un pas sans Bata. Azeline, dont l'architecture est marquée par la famille Batia, la marque est de nouveau présente dans le quotidien des habitants et l'université porte son nom. La fondation Tomáš Batia y a également installé son siège, mais ce sera à Prague, au siège de la Banque centrale, qu'elle y organisera une grande conférence pour les 120 ans de la création de l'entreprise le 20 octobre prochain.
Voilà, c'est la fin de ces faits-événements. Comme vous le savez, notre programme se poursuit avec, comme chaque mardi, la rubrique Panorama, une rubrique dans laquelle il est question cette semaine de vin. Quel amateur de bon vin a déjà fini son verre sans avoir prêté attention au nom du château dont il déguste le cru ? Vous avez dit château, que vous êtes donc vieux jeu. Le temps où le château du Bordelais en imposait avec son style néoclassique est en effet révolu. Aujourd'hui, la vigne est tendance et devient le terrain de prédilection d'architectes visionnaires à travers le monde. À l'instar des villas modernes qui ont remplacé les fermes viticoles dans la Californie des années 1980 et ainsi propulsé le vin californien dans le top des ventes internationales, les pays d'Europe centrale misent sur la publicité d'architecture contemporaine coquette ou ambitieuse pour se faire à leur tour leur place sur le marché du vin. Un reportage d'Agnès Joyot, c'est une rediffusion de l'émission du 14 janvier dernier.
Panorama.
Panorama. Le vin, et tout bon français attaché au terroir le confirmera, c'est d'abord une terre et associé à cette terre un domaine. La propriété, par exemple plus communément appelée château dans le Bordelais, apparaît d'ailleurs souvent sur l'étiquette des bouteilles. Car les outils marketing n'ont pas attendu la seconde moitié du XXe siècle pour se développer. Dès le XIXe, et en l'occurrence dans le Bordelais, le néoclassicisme fait vendre. Très en vogue pour son caractère épuré, voire austère, le château néoclassique renvoie un gage de sérieux et donc de qualité. L'engouement est tel que l'appellation « château » devient alors une mention à part entière, sans que ce terme n'ait plus nécessairement de lien avec la sémantique architecturale. Bref, le style d'un domaine viticole imprime directement sa marque au vin. Et si le château 19e fait toujours très chic, on voit se développer ces 15 dernières années un phénomène d'ordre mondial, faire appel à un architecte de renom pour redesigner sa propriété viticole et ainsi travailler à la réputation du domaine ou en asseoir le prestige.
Pour vendre son vin, le propriétaire d'un vignoble peut tout aussi bien décider de participer à des foires que de faire de la communication diverse et variée, ou bien encore construire un beau bâtiment. De toute façon, d'un point de vue pratique, il doit y avoir un bâtiment. Donc ce n'est pas plus mal si ce bâtiment est esthétique.
Dan Merta, directeur de la galerie d'architecture Jaroslav Fragner à Prague, a répondu au micro de Radio Prague aux questions que soulève l'exposition « Vin et architecture en Europe centrale » actuellement proposée à la galerie.
La première question est évidemment de savoir si le vin est de qualité ou pas, ou si l'on ne boit du vin que pour sa quantité. Il est clair qu'un mauvais vin dans un beau bâtiment ne se vendra pas. Maintenant, quand un investisseur ou un propriétaire investit dans un domaine, il faut que cela profite aux ventes. On voit ainsi apparaître une sorte d'architecture sensation. Les gens viennent y voir le procédé de fabrication du vin, puis le déguster. Il y a donc besoin d'espace pour toutes ces étapes, de la fabrication à la vente. D'un point de vue marketing, l'image du bâtiment est un élément fort, c'est un plus, une vraie publicité, on en parle dans les journaux, etc.
Ogni sami to dobré vino konzumovat v tak zajímavý době, který má ten image. C'est ainsi que, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie, on assiste ces dernières années à l'émergence de nouveaux chais très design ou à la modernisation de châteaux prestigieux ayant pris un coup de vieux. En France, Christian de Port-en-Part signe ainsi en 2011 pour Cheval Blanc, premier grand cru Saint-Émilion, un cellier aux allures de vaisseau avant-gardiste, pour reprendre la métaphore du magazine L'Express. Cette création est alors une révolution dans le paysage viticole français. Pourtant, ailleurs en Europe, le phénomène a déjà une bonne dizaine d'années, et ce de surcroît, dans des pays pas forcément considérés comme des hauts lieux du vin. C'est le cas de l'Autriche, où l'on a recensé une centaine de chantiers ces 10 dernières années. L'Autriche est d'ailleurs le pays le plus représenté en nombre d'architectures exposées à la Galerie Fragner ces jours-ci. La raison de cette effervescence est cependant tout sauf flatteuse. En 1985 éclate en effet le scandale du diéthylène glycol, substance que les viticulteurs autrichiens avaient pris l'habitude d'ajouter au vin blanc pour le rendre plus doux ou pour transformer le vin sec en liquoreux. Pour tenter d'inverser la courbe des exportations alors au plus bas, des directives très strictes ont été mises en place parallèlement à une série de subventions européennes destinées à la transformation du paysage viticole et par là même à celle de l'image du vin autrichien. Une politique qui a été un succès. Dan Merta explique.
Cela s'est passé à une époque où l'on commençait à réfléchir au lien entre architecture et vin et où germaient les premiers vignobles modernes en Californie. Les viticulteurs autrichiens s'en sont donc inspirés et comme l'économie de l'Autriche est particulièrement basée sur le tourisme, la question de l'architecture des vignobles a donc été ancrée dans la politique globale du tourisme autrichien. Il y a eu des subventions publiques et cela s'est bien développé. Les viticulteurs se sont rendus compte à quel point l'architecture était bénéfique pour leur activité et ils ont commencé à renchérir sur qui aura le plus beau vignoble.
En Europe centrale, les régions viticoles ont été dessinées du temps de l'Empire austro-hongrois. Celui-ci comprenait alors la région allemande de la Saxe, au nord-ouest de la Bohême, et s'étendait au sud jusqu'à la province de Bolzano, située aujourd'hui en Italie du Nord, et au sud-est à ce qui est devenu la Slovénie. Après la chute du régime communiste, Tchèques et Slovaques ont dû attendre plusieurs années avant que les investissements privés prennent le relais des coopératives viticoles, alors mises à mal par la transformation économique des marchés. Aujourd'hui, la Slovaquie est reconnue pour ses excellents rosés et blancs secs, tandis que les meilleurs vins tchèques sont réputés pour venir de Moravie du Sud. C'est d'ailleurs dans cette région, adjacente à la frontière autrichienne, que sont apparues les premières perles tchèques de l'architecture viticole contemporaine. Dan Merta précise.
Les quatre exemples tchèques présentés ici sont ceux dont les travaux sont aujourd'hui achevés. D'autres projets sont en cours, mais à l'heure actuelle seulement sur le papier. Parmi ces architectures exposées, je préfère Sandberg. C'est la première à avoir été réalisée et elle profite de l'un des meilleurs emplacements. Elle est surtout très intéressante d'un point de vue écologique, car elle est majoritairement construite en bois, ce qui lui donne aussi un côté sexy.
Effectivement, le bâtiment viticole de Sandberg, qui s'étend tout en longueur, épouse parfaitement la nature environnante avec son toit ondulé qui récolte les pluies et s'ajuste au vent. Construit en 2008 par Josef Pleskott, un des grands noms de l'architecture tchèque contemporaine, cette bâtisse est un exemple type de la tendance actuelle, à savoir une architecture verte répondant au code incontournable du durable. Tandis qu'au XIXe siècle, les villas italiennes et autres châteaux français, espagnols et portugais rivalisaient de grandeur et de majesté, aujourd'hui, la dimension des lieux s'accorde avec les impératifs écologiques et un souci de fonctionnalité. Une continuité demeure cependant. Ces chantiers signés par de grands noms sont généralement engagés par des producteurs jouissant d'un certain prestige et donc capables d'en assumer les frais. En l'occurrence, la maison Sandberg vient de remporter le célèbre prix argentin Vinandino pour son Palava Cuvée 2011. Mais qui dit architecture contemporaine ne dit pas forcément mépris des traditions. Et dans le domaine du vin, Dieu sait combien importe la tradition. Or, c'est justement le respect de l'héritage et de l'histoire des lieux qui a motivé les architectes chargés de rénover la cave Umodraka, dans le village de Werbowetz, à 5 km de la frontière autrichienne. Cette rénovation vient d'être récompensée du Grand Prix d'architecture 2013. Dan Merta.
Umodraka
a remporté le Grand Prix d'architecture car sa rénovation a respecté la tradition des caves locales et c'est ce lien entre tradition et modernité qui a plu au jury. Cette reconstruction est également représentative de la génération montante des architectes car elle a été réalisée par des étudiants. Aucun motif moderne n'a été ajouté et pourtant on y parle la langue architecturale contemporaine.
Umodraka n'est pas rattaché à un vignoble. C'est une petite cave servant aux dégustations. Une particularité qui la situe donc hors compétition, à côté des grands vignobles redesignés qui, eux, tendent à devenir des centres multifonctionnels. Car la culture du vin évolue de plus en plus vers les secteurs du loisir et de la relaxation. Et il ne suffit plus aujourd'hui de déguster du vin dans des caves historiques. En effet, la transformation architecturale des domaines viticoles devient parfois l'occasion d'y établir un hôtel, un spa ou un restaurant haut de gamme. C'est le cas du vignoble slovaque Zlatý Klíč, qui, en plus des services précités, dispose d'une galerie d'exposition et d'un terrain de golf au cœur de ses vignes. Architecte slovaque, maître de conférences aux Beaux-Arts de Bratislava et directeur de l'Association des architectes slovaques, Jan Bahna rappelle, pour expliquer cette tendance, le caractère atypique du vin.
De nos jours, il est devenu compliqué et difficile de vendre du vin juste comme cela. Les viticulteurs doivent beaucoup faire autour du vin, surtout en termes d'image. Vous nous direz comme pour n'importe quel produit. Sauf que le vin a cette spécificité que vous ne pouvez pas le copier à l'identique et le produire à des milliers d'exemplaires. Chaque vin a sa particularité.
Les producteurs de vin auront donc beau investir des millions dans l'allure de leur domaine, la vérité se trouvera toujours au fond du verre. Pour les curieux et les amateurs d'architecture, mais pas seulement aussi de vin, car on y servira un petit verre, l'exposition « Vin et architecture en Europe centrale » se tient à la Galerie Fragner jusqu'au 26 janvier, avant de poursuivre son cycle à Wrocław en Pologne, Bratislava et Budapest.
Voilà, et c'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. Ahoy !